France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. Carlos Ghosn a demandé à assister au prochain conseil d'administration de Nissan prévu demain au Japon. Actuellement assigné à résidence à Tokyo après plus de 100 jours de détention, Carlos Ghosn est placé sous un contrôle judiciaire strict. Il a notamment interdiction de rencontrer les protagonistes de l'affaire dans laquelle il est poursuivi, mais la justice japonaise peut éventuellement l'autoriser à participer à ce conseil d'administration. Décision attendue dans la journée. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est rentré au pays hier soir après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse, ce qui ne fera probablement pas baisser la tension. Alors qu'une grève générale a débuté hier, premier jour de la semaine, à travers toute l'Algérie. De leur côté, de nombreux étudiants et professeurs des universités refusent les vacances anticipées annoncées par le pouvoir pour tenter d'éteindre ou au moins de limiter la contestation, comme Riyad.
Les étudiants eux-mêmes ne savaient pas comment réagir face à cela. Et moi, ma première position, et je l'assume, je leur ai dit, si j'ai des étudiants devant une salle ouverte, je fais mon cours.
Témoignage recueilli par Leïla Berato à Alger, à écouter en intégralité dans le journal de 8h. Au Venezuela, Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, demande l'instauration dans son pays de l'état d'urgence, alors que pour la 3e journée consécutive, une grande partie du pays a été privée d'électricité hier. Il souhaite toujours, Juan Guaido, pouvoir faire entrer une aide humanitaire jusqu'à maintenant refusée par Nicolas Maduro, alors que le gouvernement vénézuélien a ordonné pour aujourd'hui une nouvelle journée chômée dans les écoles et les administrations du pays. C'est aujourd'hui que Theresa May doit révéler le résultat des discussions menées pour tenter d'obtenir des modifications à l'accord de divorce avec l'Union européenne à la veille d'un vote crucial des députés britanniques et à moins de 3 semaines maintenant de la date prévue du Brexit. Les Boeing 737 MAX de dernière génération auraient-ils un problème de sécurité? Pour la 2e fois en quelques mois seulement, un accident s'est produit hier au moment du décollage d'un de ces appareils à Addis Abeba hier matin. Un avion de la compagnie éthiopienne Airlines devant assurer la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé. Aucun survivant parmi les 157 passagers, parmi lesquels figuraient 9 Français. Cette nuit, la Chine a demandé à ses compagnies aériennes de ne plus utiliser jusqu'à nouvel ordre leur 737 MAX. On y revient dans le journal de 6h30.
Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Le web fête ses 30 ans, mais son créateur, Tim Berners-Lee, n'a pas l'esprit à la fête. Selon lui, l'utopie des débuts a été pervertie, mais le verre n'était-il pas dans le fruit dès le départ? Qui a trahi le web? On en débat ce lundi dans Du grain à moudre sur France Culture.
Du grain à moudre, ce lundi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Il est 6h02 sur France Culture, très bon réveil, voici le réveil culturel avec Toufik Hakem.
Miaou! Bonjour, je m'appelle Brigitte, mais on dit Brigitte. Brigitte Fontaine qui vous salue et vous embrasse. Et go !
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Pour fêter, comme il se doit, la 21e édition du Printemps des Poètes, qui a commencé ce week-end et qui va se poursuivre jusqu'au 25 mars, on est allé rendre visite à Brigitte Fontaine, auteure-interprète de chansons, comédienne et aussi écrivain, puisqu'elle déteste le terme d'écrivaine. Brigitte Fontaine est un poète ou une poétesse, cela personne ne le conteste. Elle vient de publier un livre aux éditions Le Tripode, Paroles d'Évangile, un recueil de textes poétiques, souvent drôles, sombres parfois. C'est l'esprit sans âge de la Fontaine et c'est Brigitte perdue dans le monde numérique d'aujourd'hui. Des petits textes comme des flashs. On avait donc 2 bonnes raisons dictées par l'actualité pour aller voir l'artiste légendaire dans sa demeure parisienne. 2 raisons, ou même 2 alibis plutôt, puisque le Printemps des Poètes, bien sûr, le livre Paroles d'Évangile, tout un hommage à Chaval qui vient tout juste de sortir, bien sûr c'est un alibi, mais les auditeurs fidèles savent qu'il s'agit d'abord d'un rituel. Tous les ans, on va voir Brigitte Fontaine pour voir où elle en est, où nous en sommes et où va le monde. C'est un peu notre boussole, Brigitte Fontaine, et on ne veut pas la perdre.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Avec sa couronne d'épines dorsales, elle avait de la gueule. Quant à l'illustre et scandaleuse éponge au vinaigre, Il s'agissait en réalité d'un vulgaire baba au rhum, unique objet de son ressentiment. Aussi, au lieu de l'avaler, comme elle appartenait aux anti-alcooliques éponymes, elle préféra mordre et manger la main du donneur, ou plutôt de la donneuse, n'est-ce pas ? Puisque l'heure est à la féminisation des mots, et du reste, ils ne nous ont pas attendus, eux, ou pas, en ce qui concerne donneuse, puisque celle-ci est utilisée par méchanceté depuis longtemps, par tous les macros et les escrocs armés de la Sainte Famille et autres, j'ai nommé les prétendus uniques monothéistes, comme si on les avait attendus pour cela, les pauvres gens. Bref. Alors, je croyais parler correctement le français, mais je m'aperçois que non, car je ne sais pas ce que ça veut dire bon appétit ou bonne soirée ou un protocole d'accord ou un protocole d'entretien. Aussi, vous-même, Toufir Hakim, et moi, nous ne ferons pas de protocole d'entretien parce que je ne sais pas ce que ça veut dire.
Bonjour Brigitte Fontaine, quand même, Parole d'Évangile est le titre de votre dernier livre qui est édité par le Tripode.
Pas le dernier, le nouveau.
Bah, si vous voulez, c'est le nouveau livre, votre nouveau livre qui vient de sortir. Il est sorti cette semaine avec une couverture signée Bilal. Alors je ne vais pas prendre le risque, surtout pas aujourd'hui, surtout pas chez vous. Je ne vais pas prendre le risque d'analyser, d'expliquer, d'expliciter ce recueil de textes. Vous détestez ouais. Les explications de textes, d'ailleurs, le thème d'un de vos premiers textes.
Certes, car comme je le dis très justement, les expliqueurs de textes et les expliqueuses devraient tous être défenestrés, passés par les armes et châtrés.
Mmh. Et roués vifs, suicidés dans le dos. L'explication de texte est un crime contre l'humanité, écrivez-vous, Brigitte Fontaine.
Eh bien, pour une fois, j'ai raison.
Alors, comment présenter, puisqu'on ne va pas expliquer, comment présenter ce recueil de textes, ce nouveau recueil de textes où vous faites paraître au Tripode sous le titre mystérieux de Paroles d'Évangile?
Ben, c'est parce que c'est franc et massif, comme des paroles d'Évangile, donc c'est normal. Tout est normal dans cette histoire, tout est extrêmement raisonnable.
Chère Brigitte Fontaine, s'il fallait s'aventurer un peu et expliquer de quoi il s'agit dans votre dernier ouvrage, Paroles d'Évangile, il y a des textes qui sont poétiques, il y a aussi quelques pensées profondes, certaines qui font peur puisqu'on parle de choses très sombres, on va en parler, certaines qui nous font voyager, d'autres qui ne sont que poésie, plaisir des mots.
Poésie dans le sens étymologique véritable, c'est-à-dire ça vient du grec « faire ». Alors là, je suis d'accord, parce qu'autrement, comme poésie, au lieu de poésie, je dirais plutôt, par exemple, j'appellerais ça la poésie « soul blabla ». Soul, blabla. Mais là, oui, d'accord, c'est de la poésie au sens de faire, car j'ai fait cela. Et je ne peux pas l'expliciter, ni même l'expliquer. Je fais ce que je fais, et c'est tout.
Et ce que vous faites, c'est là, dans ce livre, Paroles d'Évangile.
C'est pas mal. Moi, je savais pas. Je savais pas du tout si c'était bien ou non. Et je croyais que peut-être ça avait échappé à ces catégories un peu obsolètes de bien ou de mal. Eh bien, non. Je me suis trompée. C'est pas mal du tout.
Il y a un peu vos états d'âme, il y a un peu de ces légendes celtes qui vous ont habité enfant et qui semblent dans ce livre avoir trouvé le couloir mystérieux qui mène au conte soufi au pays de Shahrazade. Il y a les motivations du désespoir, il y a aussi quelques personnages incroyables qu'on retrouve dans votre univers, dans ces petites histoires, dans ces instantanés. Il y a aussi quelques références, Boucle d'or par exemple.
Pardon ?
Boucle d'or. Il y a Miss Marple qui gambade avec Miss Marguerite Duras. Il y a mon oncle Anatole.
Je les aime. Je les aime et je ne tiens pas compte concernant Miss Marple et Marguerite Duras de leur personnage. Je tiens compte de leurs faits et gestes utiles ou de leur œuvre dans le cas de la grande Marguerite. Je ne tiens pas compte de son personnage. Ça m'est égal. Elle avait, comme Miss Marple, quelque chose dans le gilet. Quant à mon oncle Anatole, le pauvre, que Dieu lui pardonne.
Pour avoir une idée des histoires de votre livre, Paroles d'Évangile, je vous demanderais bien, Brigitte Fontaine, de nous parler d'Armand et Chita.
Bon, c'est des petits copains que j'ai rencontrés au cours d'un voyage à l'intérieur de l'abeille, puisque l'abeille, sur la couverture, selon une vision de moi que Bilal a dessinée, l'abeille est enfermée dans une sphère transparente. Et à l'intérieur de l'abeille et à l'intérieur de la sphère, j'ai rencontré des petits copains qui s'appellent Chita et Armand, entre autres. Mais il y a aussi Jeanne Lavioc, ou bien l'anti Dorian Gray. Ce qui est quand même important dans ces paroles d'évangile, ce sont les petits flashs un peu strident, un peu rigolo, un peu fleuri et répétitif dans la rage noire où me plonge le monde de notre époque avec les iPods et les entretiens et les protocoles et tout ça.
Vous parlez aussi de désespoir, les motivations du désespoir, ce qui fait que peut-être que ce texte est parmi les derniers textes que vous avez publiés, Brigitte Fontaine, le plus sombre. On reste là, on a toujours le sourire, il y a toujours cette envie de rire avec les malheurs du monde et le lecteur potentiel, mais il y a un peu plus de mots qui tournent autour du désespoir.
Oh, c'est pour faire chic. Le désespoir, je sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est que l'atroce, l'horreur, les trucs comme ça, quoi, vous comprenez. Mais le désespoir, je comprends pas très bien ce que c'est.
Et diriez-vous que toutes ces histoires réunies dans ce livre, Paroles d'Évangile, Brigitte Fontaine, sont aussi autant de flashs que de résumés de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez aujourd'hui?
Disons que c'est un peu le savon produit de l'effarement où je me trouve devant les obligations qui sont modernes, c'est-à-dire très démodées, qui sont à la mode, c'est-à-dire très démodées. Mais comme le démodé est à la mode, eh ben, on n'y comprend plus rien. Voilà.
On s'y perd un peu hein, dans ce que vous dites.
Comme on ne comprend rien à rien, ce livre, comme j'ai eu l'honneur de l'écrire en quatrième de couverture, ce livre est consacré à rien. Je suis un poète. Je rêve et je lâche sur les lueurs du liquide vaisselle, sur la couleur des bonbons à la menthe, le long de l'Atlantique, sur le ciel plombé à travers les vitres des bars parisiens. Je suis un poète. Je tâte avec délicatesse les flaques de merde, plus douces que le miel. Je hume l'urine musquée des chats dans les taudis des quartiers chics, gothiques. Je suis un poète. Je file avec délice, merveilleusement, le long des autoroutes, noires et blanches, la nuit au cœur du monde, entre les squelettes obscurs des arbres déshabillés, sous la lune secrète. Je suis un poète, je craque pour les mammifères gracieux et immondes, oxymores domestiqués dans les quartiers chics et les HLM tentants aperçus par la vitre de la limousine ou du train. Je suis un poète et je ne vous embrasse pas, mais je vous invite au bal des obscurs, des petits voleurs, des veines bleues, des basanés, à Fleury-Mérogis, à la santé et aux baumettes. Ouvrez les prisons, elles nous tuent.
Avec Brigitte Fontaine à l'occasion de la sortie cette semaine de son livre « Paroles d'Évangile » édité par le Tripode avec une couverture signée Anki Bilal, un recueil de poèmes d'histoire et qui ressemble
non,
d'ailleurs...
C'est pas des histoires, c'est des flashs, des pancartes, des petits tracts ou des prières ou des... Il y a quelques histoires aussi, mais tellement décousues que je demande... à une fauvette couturière de venir m'aider.
Alors, si vous nous expliquiez, vous, en tant que genre humain écrivant ces histoires, écrivant ces flashs, Brigitte Fontaine, un des personnages, par exemple, de ce livre, Paroles d'Évangile, la marquise des Maquis. Qui est donc la marquise des Maquis ?
Chut ! C'est un secret. Elle est voilée. Et elle va allumer les bougies et vous saurez tout.
Et dans la tradition académique, toujours dans Paroles d'Évangile, vous écrivez un texte qui s'appelle Château faible.
Ouais, c'est ce qu'il y a de plus faible. Il est en vers, mais je fais comme si de rien n'était et je l'ai écrit comme s'il était en prose, mais c'est quand même pas terrible.
Et pourquoi il se retrouve dans votre livre ?
Je l'ai oublié. Dans mon livre, et ils l'ont imprimé.
Un hommage au bateau ivre ?
Je ne suis pas un président de la République pour faire des hommages à tort et à travers. Et tous les jours, les présidents de la République sont des professionnels des hommages. Pas moi. Et je ne veux pas qu'on me rende hommage, d'ailleurs, du tout.
Alors, de quoi parle ce texte ?
J'en sais rien.
On va aller très loin.
Et si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien.
Il y a un autre texte qui s'appelle Jeanne Lavioque. On pense tout de suite à Jeanne Moreau dans Les Valseuses. Mais ça n'a absolument rien à voir, quoique.
Quoique, voilà. C'est complètement imaginaire, évidemment, mais il s'agit en effet de Jeanne, pour laquelle j'ai une grande affection respectueuse.
Ce qui vous est insupportable, si on vous lit bien, Brigitte Fontaine, c'est le quotidien. Qu'est-ce que vous appelez le quotidien ?
Ah non, ce n'est pas le quotidien qui m'est insupportable, puisqu'il n'y a que le quotidien. Alors disons, si vous le voulez bien, que tout m'est insupportable, oui. Et que je hais tout le monde, oui. C'est vrai, je suis misanthrope. Mais j'aime quand même certaines personnes qui échappent à, au code. Bon, bon, alors, le quotidien. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Au quotidien, au quotidien. En fait, voilà, au quotidien, votre vie au quotidien. Alors, j'ai intitulé ce petit morceau La vie de tous les jours au quotidien. Parce qu'ils m'énervent trop, je les tuerais. Je les tuerais tous.
Mais qui voulez-vous assassiner ou tuer, Brigitte Fontaine ?
Tous les blablateurs de quotidien et de, en fait, tous les, ceux qui, je crois, obligés d'avoir des béquilles très chics, des béquilles haute couture, qu'ils croient. Mais non, ça ne le fait pas.
Et en voyage avec les paroles d'évangile de Brigitte Fontaine, titre de son dernier ouvrage, en voyage de Lomé, Togo, à Paname, France. Mais vous dites qu'après tout, c'est la même chose, hein, les histoires qui se passent ici peuvent se passer n'importe où ailleurs.
Mais oui, par exemple, à Lomé, capitale du Togo, eh ben, il y a des nanabens. Et c'est des pointures, les nanabens.
C'est quoi les nanabens ?
Eh ben, c'est des meufs qui tiennent le commerce à Lomé, Togo, et qui circulent en Mercedes. C'est pour ça qu'on les appelle des nanabens.
Je suppose que vous n'êtes jamais allé au Togo, Brigitte Fontaine ?
Non, mais j'ai une chère amie qui est togolaise, qui m'a tout raconté.
Interprète, auteur-interprète, mais aussi écrivain, puisque vous ne voulez pas qu'on dise écrivaine.
Bon, comme s'il n'y avait jamais eu des femmes écrivains avant. C'est ça qui me met en colère. Il y a toujours eu des femmes écrivains. Et un écrivain est un écrivain, de même. Un écrivain, dis-je, est un écrivain, même s'il est du sexe féminin, de même que une girafe est une girafe, même si elle est du sexe mâle.
Je crois cette fois-ci avoir tout compris. Votre premier livre, en dehors de vos chansons, Brigitte Fontaine, votre premier livre est paru il y a tout juste 40 ans, en 1979, chez Segers, Madelon. Et puis, vous avez travaillé avec à peu près tous les éditeurs de la place de Paris, ou presque, aux Imprimeries Nationales, chez Flammarion, au Seuil, chez Archimbaud, vous avez fait Actes Sud. Là, vous arrivez chez un nouvel éditeur, le Tripode. Comment vous travaillez avec les éditeurs ?
Avec celui-là, ça gaze, ça boum. Celui-là, Frédéric Martin, de l'édition Tripode, ça boum.
Entre faire un livre et faire un disque aujourd'hui, Brigitte Fontaine, qu'est-ce qui vous stimule le plus ?
Qu'est-ce qui me séduit le plus ?
Par exemple,
hein ? Idem, idem.
J'ai vu que vous avez repris vos concerts. C'est pas la peine d'annoncer la date parisienne du 26 mars parce que c'est complet.
Depuis 15 jours.
Ouais. Donc c'est complet, mais j'ai vu que vous aviez encore quelques dates pour faire des concerts.
Oui, 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 oui.
Moi qui pensais que la littérature, les livres allaient être votre champ de retrait, mais pas du tout. Vous continuez à faire les deux, chanter, vous produire.
C'est interdit.
Non, pas du tout. Et que ce printemps, vous allez retrouver l'ambiance de cinéma, puisque vous allez être dans le prochain film de Kerven et de Lépine avec
qui. Ce n'est pas que je vais être dans le prochain film. Je m'aperçois que je vais être avec eux dans le film. C'est-à-dire, nous le faisons à trois. Ils ont pris des textes de moi qu'ils ont pêchés de ci, de là. Et je joue, moi, à peu près seul, sauf Gustave Kerven, qui jouera un peu aussi bien. J'aime beaucoup, beaucoup Gustave Kerven comme réalisateur et comme acteur. Il est formidable.
Donc vous avez une idée de ce que ça va être, ce film ?
Ah, complètement, oui.
Ça va être quoi? Ça racontera quoi?
Oh, je vous le dis pas, vous verrez bien, mais ça s'appelle Morlaix. Parce que on va tourner à Morlaix, ma ville natale. Il y a environ 20 000 et 10 ans, je crois. Et la devise de la ville est « S'ils te mordent, mords-les ». Voilà. Et alors, ils ont appelé leur film, ça c'est eux, ils ont appelé notre film « Morlaix ». Voilà.
Voilà, on n'en saura pas plus ?
Non, sauf que je crois pouvoir vous dire que je déverse un torrent d'injures. Presque pendant tout le temps.
Et ben voilà pour l'interview 2019 avec Brigitte Fontaine. Si on devait comparer cet entretien aux autres entretiens. Une fois de plus, je parle d'une actualité d'un livre que vous faites paraître au Tripode, Paroles d'Évangile. On a parlé de tout, sauf du livre. Vous nous avez annoncé que vous allez tourner dans un film, mais on n'a aucune idée de quelle histoire va être racontée dans ce film.
Eh bien, je laisse la surprise à tout le monde et j'embrasse tout le monde, bien que je déteste tout le monde. Je vous déteste. Vous non plus ? Eh bien d'accord. On est fait pour s'entendre. Je vous embrasse tous.
Mais je ne sais pas, là juste avant de rappeler que cette interview de Brigitte Fontaine, on peut la réécouter en passant par franceculture.fr pour ce qu'on appelle une écoute en ligne ou même en passant par l'abonnement au podcast du Réveil Culturel. Juste avant de vous laisser, Brigitte Fontaine, puisque cette interview a été enregistrée chez vous, à l'île Saint-Louis.
À la lueur des bougies.
À la lueur des bougies, c'est vrai. Si je partais en vous laissant quand même avec cette question très 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 simple, de quoi ça parle, Paroles d'Évangile ?
De rien et de tout, peut-être. Je vous serais reconnaissante de ne pas me cuisiner davantage.
Rien ne peut avoir d'importance.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le Festival de géopolitique de Grenoble. À quelques jours du Brexit et à 2 mois des élections européennes, quel est l'avenir de l'Europe ? Allons-nous vers plus d'union ou au contraire vers une désunion européenne ? Venez vous pencher sur cette question pendant les 4 jours du Festival de géopolitique de Grenoble. Au programme, plus de 100 conférences, débats, tables rondes, expositions et concerts. Festival de géopolitique de Grenoble, du 13 au 16 mars, un partenariat France Culture.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain du crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines, peu après son décollage d'Addis Abeba, de nombreuses questions se posent, notamment sur la fiabilité de l'appareil. Le Boeing 737 MAX 8, déjà impliqué en octobre dernier dans un accident à Jakarta. Correspondance à suivre de notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. En Syrie, après une semaine d'évacuation de civils à Baghouz, les forces démocratiques syriennes ont lancé une nouvelle opération contre les djihadistes toujours présents sur place hier soir. Nous écouterons le porte-parole des FDS dans ce journal. C'est notre envoyé spécial qui l'a rencontré. Et puis un nouveau premier ministre palestinien a été nommé hier, Mohamed Chtayeh. C'est un cadre du Fatah, un proche du président de l'autorité palestinienne. Son portrait par Marine Vlaovic. Y aurait-il un problème de sécurité concernant les Boeing 737 de nouvelle génération? Pour la deuxième fois en quelques mois seulement, un accident s'est produit hier au moment du décollage impliquant un 738 MAX 8. Après Jakarta en octobre dernier, c'est à Addis Abeba en Éthiopie qu'un nouveau crash a eu lieu. C'était hier matin. Aucun survivant parmi les 157 passagers, parmi lesquels figuraient 9 Français. Et au-delà de l'enquête qui commence sur place, beaucoup d'interrogations déjà du côté du constructeur Boeing à Seattle. À Washington, la correspondance de Grégory Phillips.
Évidemment, il est trop tôt pour dire si les deux accidents, celui de la compagnie Lion Air en octobre en mer de Java qui avait provoqué la mort de 189 personnes et celui d'Ethiopian Airlines ont une cause commune, mais les deux catastrophes se ressemblent, un crash quelques minutes seulement après le décollage. Boeing et l'autorité américaine de sécurité des transports ont donc envoyé sur place des équipes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce modèle, le 737 MAX, n'est en service que depuis 2 ans, 350 appareils ont déjà été livrés, essentiellement en Chine, mais 5000 ont été commandés. Pékin, d'ailleurs, demande à toutes les compagnies chinoises de clouer ces avions au sol en attendant les résultats de l'enquête. Ces deux accidents mortels sur un nouveau modèle sont évidemment un coup très dur pour le constructeur américain qui, suite au drame d'hier, préfère reporter la présentation de son nouveau gros porteur, le 777X, qui était prévu après-demain à Seattle.
Grégory Phillips. Carlos Ghosn a demandé à assister au prochain conseil d'administration de Nissan prévue demain, actuellement assigné à résidence à Tokyo après plus de 100 jours de détention. Carlos Ghosn est placé sous un contrôle judiciaire strict. Il a notamment interdiction de rencontrer les protagonistes de l'affaire, mais la justice japonaise peut éventuellement l'autoriser à participer à ce conseil d'administration. Une décision est attendue dans la journée. Aux abords de Baghouz, en Syrie, les forces démocratiques syriennes ont lancé hier soir ce qui pourrait finalement être le dernier assaut contre ce qui reste de l'organisation État islamique. L'offensive a débuté en fin de journée par des bombardements d'avions de la coalition internationale. Ils ont visé des entrepôts de munitions utilisés par les djihadistes. Opération lancée après une semaine entière consacrée à l'évacuation des civils présents sur place. C'est ce qu'explique Mustapha Bali, le porte-parole des forces démocratiques syriennes, à notre envoyé spécial Aurélien Colli.
Ces derniers jours, nous avons ralenti notre assaut pour permettre aux civils de quitter l'enclave. Pendant 7 jours, des milliers d'entre eux sont sortis et des centaines de djihadistes se sont rendus. Hier, nos forces n'ont plus vu de civils utilisés comme boucliers en première ligne, donc nous avons décidé de relancer l'assaut. Nos forces spéciales ont pour mission d'essayer de protéger les femmes et les enfants de djihadistes qui seraient encore à l'intérieur. Mais le combat pour éradiquer Daesh à Baghouz est lancé. Soit ils jettent les armes, soit ils mourront.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est rentré au pays hier soir après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse, ce qui ne fera probablement pas baisser la tension, alors qu'une grève générale a débuté hier, premier jour de la semaine, à travers tout le pays. Elle touche les commerces, les transports et les entreprises publiques et privées. On attend dans la semaine la décision du Conseil constitutionnel algérien sur la validité de la candidature du président algérien pour un 5e mandat. Dans les territoires palestiniens occupés, Mahmoud Abbas a nommé hier un nouveau Premier ministre qui devra former un nouveau gouvernement à Ramallah. Mohamed Chtayeh, cadre du Fatah, l'homme est proche du président de l'autorité palestinienne, ce qui risque de creuser encore un peu plus le fossé entre Fatah et Hamas. Les explications de Marine Vlaovic, la correspondante de RFI dans la région.
ancien conseiller de Mahmoud Abbas dont il est proche et membre du comité central du Fatah, la plus haute instance du parti présidentiel. Mohamed Chtaïe, 61 ans, succède à Rami Hamdallah qui était à la tête d'un gouvernement considéré comme indépendant. En nommant ainsi un fidèle parmi les fidèles au poste de Premier ministre, le président de l'autorité palestinienne resserre les rangs autour de lui. Mais en choisissant un cadre important du Fatah, Mahmoud Abbas renforce l'emprise de son parti sur les institutions défaillantes de l'autorité palestinienne. Un signal fort qui risque d'aggraver la division avec le Hamas, alors que les nombreuses tentatives de réconciliation entre les factions palestiniennes ont toutes avorté et qui ravive le spectre d'une séparation totale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007 a déjà annoncé qu'il ne reconnaissait pas ce gouvernement qualifié de séparatiste car formé sans consensus national. De quoi éloigner encore la perspective d'hypothétiques élections. En décembre dernier, Mahmoud Abbas a annoncé la dissolution du Parlement palestinien, dominé par le Hamas et inactif depuis 12 ans. Il s'était alors engagé à organiser un scrutin législatif d'ici 6 mois.
Marine Vlahovic. Ce lundi sera une nouvelle journée chômée au Venezuela. Hier, le gouvernement a ordonné l'arrêt des écoles et des administrations du pays, toujours paralysées par une panne d'électricité depuis jeudi. La situation est dramatique, notamment dans les hôpitaux. L'opposant Juan Guaido, président autoproclamé, a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence et a réclamé une nouvelle fois l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Nous sommes le 11 mars, c'est le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon il y a 8 ans maintenant. Catastrophe sur laquelle nous allons revenir dans nos prochaines éditions ce matin. Et c'est aussi le 11 mars, la journée européenne de lutte contre le terrorisme. Autre anniversaire, il y a 15 ans, jour pour jour, l'Europe connaissait les pires attentats terroristes de son histoire. Al-Qaïda frappait Madrid et sa gare d'Atocha. Bilan effroyable de 192 morts et de milliers de blessés. Mais en Espagne, les hommages qui seront rendus aujourd'hui aux victimes de ces attentats seront, une fois de plus, rendus en ordre dispersé sur fond de dissension politique. Mathieu de Taillac.
Deux associations de victimes représentent deux tendances de la politique et de la société espagnole et ne parviennent pas à se rassembler, même pour simplement se recueillir en mémoire de leurs morts. En 2004, les attaques terroristes, la mauvaise gestion de cette crise par le gouvernement de José María Aznar et la victoire surprise du socialiste José Luis Rodríguez Zapatero aux élections tenues 4 jours après... Tous ces événements avaient profondément divisé les Espagnols. D'un côté, ceux qui, avec Aznar, refusent de ne voir dans ces attentats qu'une vengeance djihadiste à la participation de l'Espagne à la guerre en Irak. Ils pensent que les séparatistes basques d'Otea y sont eux aussi pour quelque chose. De l'autre côté, ceux qui ont accepté le verdict des juges et refusent les théories conspirationnistes basées sur aucune preuve. 15 ans après, les deux Espagnes, la gauche et la droite, sont encore incapables de se comprendre et de tenir un hommage ensemble.
Mathieu de Taillac à Madrid. La cour d'assises de Bruxelles doit prononcer aujourd'hui la peine de réclusion criminelle qui sera infligée au djihadiste français Mehdi Nemmouch, jugé ces dernières semaines pour l'attentat perpétré en 2014 contre le musée juif de la capitale belge. Mehdi Nemmouch a déjà été reconnu coupable par la cour des 4 assassinats terroristes perpétrés ce jour-là. En France, Bernard Tapie de retour au tribunal, en correctionnel à Paris, procès pour escroquerie et détournement de fonds publics après l'arbitrage qui avait été octroyé à l'homme d'affaires. 403 millions d'euros en 2008. Il s'agissait de solder son litige avec le Crédit Lyonnais, arbitrage qui a depuis été reconnu frauduleux et qui a été annulé. La protection des lanceurs d'alerte au niveau européen, de quelle manière? Si depuis l'affaire des LuxLeaks, l'idée fait son chemin, les modalités précises sont loin d'être trouvées. Tous les États membres de l'UE ne sont pas d'accord entre eux sur la législation qui pourrait être mise en place. Les dernières discussions autour d'une directive européenne doivent avoir lieu ce lundi à Bruxelles. Discussions entre le Conseil, la Commission et le Parlement, alors que certains pays, dont la France, veulent protéger avant tout le secret des affaires. À Bruxelles, Laxmilota.
Le lanceur d'alerte doit-il d'abord évoquer ses soupçons de fraude en interne? Les États membres ne sont pas d'accord quant à la réponse à cette question. En lançant le projet de directive, la Commission européenne prévoyait d'abord que les personnes en possession d'une information délicate concernant leur entreprise en parlent en interne, puis auprès d'un prestataire externe, avant une éventuelle médiatisation. Mais fin 2018, cette hiérarchie a été supprimée par le Parlement européen, qui considère que c'est au lanceur d'alerte de juger à qui il doit révéler les activités illicites qu'il soupçonne. En janvier, les États membres ont commencé à participer au débat. Une dizaine d'entre eux sont favorables au projet, l'Irlande, la Belgique ou encore le Royaume-Uni. Mais d'autres, comme la France, la Hongrie et l'Autriche, veulent rendre le signalement en interne obligatoire. Pour la France, il faut défendre d'autres intérêts légitimes comme la sécurité et la défense nationale ou encore le secret des affaires. Paris propose un signalement auprès d'un interlocuteur impartial et tenu à une stricte obligation de confidentialité. Mais la France a perdu un soutien de taille la semaine dernière, celui de l'Allemagne, qui assure désormais vouloir faire preuve de flexibilité.
Lakshmi Lotha, la météo en France, un temps encore instable aujourd'hui, avec toujours du vent sur les Alpes et la Corse, de la pluie de la Normandie jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes et de la neige sur les Vosges et le Jura, température maximale 18 degrés au sud. Il est 6h40 sur France Culture. Voici Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Benoît Bouscarel.
Le journal des idées, vous nous emmenez ce matin, Jacques, en Algérie, où le ministre de l'Enseignement supérieur a décidé d'avancer à ce dimanche 10 mars, hier, oui, à la date de début des vacances de printemps, qui était prévue le 21 mars.
Voilà. Et pour le site d'information Tout sur l'Algérie, relayé par Courrier International, cette décision constitue sans doute le premier grand test pour la mobilisation populaire après le succès des marches pacifiques. La réponse des étudiants ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Ils ont lancé des appels à occuper les facultés et à retourner à la fac dès dimanche. Les enseignants, puis les lycéens commencent également à rejoindre le mouvement. Par ailleurs, le site de l'hebdomadaire Le Point relève un succès mitigé de la mobilisation suite au mot d'ordre de grève générale. Si à Alger, les transports publics sont à l'arrêt et que de nombreux commerçants ont baissé leurs rideaux, la plupart des administrations semblent fonctionner, de même que les entreprises privées. Dans les mairies de la région d'Annaba, la quatrième ville du pays, les personnels ont cessé le travail. Et à Béjaïa, en Kabylie, un syndicaliste a évoqué à l'AFP une paralysie totale de la ville. Dans ces pages débat, l'humanité se demande où va l'Algérie. Kader Abderrahim estime que dans la situation actuelle, les trois piliers du régime, le camp Bouteflika, l'armée et les oligarques, se sont mutuellement neutralisés pour assurer l'immobilisme. Mais le politologue relève des craquements dans la hiérarchie militaire. Si dans les années 1960-70, il y avait 20 colonels qui exerçaient leur monopole sur la politique, aujourd'hui, il y a 300 généraux et 1200 colonels, dont la majorité a reçu une formation universitaire. Si un consensus est facile à obtenir avec 20 officiers supérieurs, qu'en est-il avec 1500? D'où le fait, selon lui, que l'armée et le peuple pourraient être les arbitres d'un jeu qui s'ouvre et dans lequel les rapports de force comptent autant que la capacité de mobilisation. Sur le site de Marianne, Alice Schwarzer évoque le double combat des femmes algériennes, celui pour une vraie démocratie et celui pour leurs droits de citoyenne. Ce moment est capital pour elles, pour en finir avec un droit de la famille qui leur donne un statut d'enfant, affirme la journaliste et féministe allemande spécialiste de l'Algérie. C'est pourquoi on les voit prendre possession de l'espace public, d'autant que les islamistes sont en embuscade, comme en témoigne notamment le port du foulard. Pendant la guerre civile et les années noires algériennes, elles ont subi une terrible pression pour remettre le foulard. Depuis, beaucoup de ces femmes l'ont conservé. Aujourd'hui, on peut voir des jeunes étudiantes dans des universités le porter. La journaliste qui les a rencontrées les a trouvées ouvertes, intéressées par le féminisme, mais oublieuses du fait que ce foulard, qui est revenu en 1979 avec la révolution iranienne, est un drapeau politique. Dans l'hebdomadaire, l'écrivain Boualem Sansal suggère aux jeunes manifestants trois mesures pour en finir avec la dictature. Un engagement ferme en faveur de la laïcité, l'abrogation immédiate du code de la famille et la reconnaissance que l'Algérie est un pays francophone, car le français lui appartient aussi. C'est un butin de guerre, disait Kateb Yassine, et parce qu'il est une fenêtre sur le monde et un puissant moyen d'accès à la connaissance moderne. Dans Le Monde, Kamel Daoud revient sur la personnalité d'Abdelaziz Bouteflika. Le roman politique algérien aime collectionner les anecdotes sur le caractère rancunier de cet homme, son ancienne ambition devenue colère après qu'il a été écarté, chassé du pouvoir en 1981. Ses blagues racontées aux visiteurs étrangers, dépeignant les Algériens sous le pire des portraits, ses grimaces et ses envolées égocentriques. c'était au temps où il parlait. L'écrivain évoque ces mots rares et les images désastreuses d'une décomposition en live que son frère surveille comme un monteur. Comme monteur d'images à la télévision publique, une époque qui est aussi celle de l'inflation des titres, son excellence, Fakramatuhu, il faut traduire sa grandeur. Le mantra est obligatoire dans la bouche de chaque ministre, de chaque haut fonctionnaire, en prologue ou en conclusion de chaque déclaration publique, de chaque annonce de projet. Ceux qui ne sacrifient pas à l'usage finissent mal, en témoigne un journaliste de la télévision nationale qui, oubliant le titre, se fit remercier. L'écrivain estime que son règne est aussi celui d'une kadhafisation lente du pays depuis son élection après la guerre civile, destruction des institutions, encanaillement généralisé de l'État, de ses hommes, concentration abusive des pouvoirs, monarchisation. L'exécutif en a subi les conséquences. On a très vite remplacé le chef du gouvernement, comptable devant le Parlement, par un Premier ministre, comptable devant le palais. Conclusion, la grande tradition d'un pouvoir collégial sous la forme d'un cabinet noir ou de décideur à Alger, version occulte du consensus, a fini en palais peuplé de courtisans, une galaxie autour d'un homme et surtout de son frère, devenu le régent de la République. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et donc on reste en Algérie, mais sous l'angle de la diplomatie.
Voilà, c'est ça, puisqu'après deux semaines d'absence maintenant, le président Bouteflika est rentré hier de Suisse où il était en clinique. Deux semaines d'absence et de manifestations hein, dans le plus grand pays africain, alors que les États alentours restent majoritairement discrets, surtout les plus proches peut-être. On voit ça avec vous, Brahim Oumansour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes consultant en géopolitique et relations internationales, enseignant à l'IRIS et à l'Université de Paris-Est Créteil. Alors, ce qu'on peut remarquer hier, c'est que on parle de défection déjà au sein du pouvoir africain, mais ça a été une journée marquée par le retour d'Abdelaziz Bouteflika. Son avion a atterri sur une base à 40 km au sud d'Alger. Le fait que, si je ne me trompe pas, on n'ait pas vu les images du président, qu'est-ce que ça signifie selon vous, est-ce que c'est qu'on veut une restauration de l'édifice ou qu'on se prépare à aménager une transition en fait sans le président ?
En effet, pour le moment, depuis l'atterrissage hier à l'aéroport militaire donc de l'avion présidentiel, il n'y a pour le moment aucune déclaration, aucune image ou information sur son état de santé ou la suite. Ce silence, à mon sens, ne fera qu'augmenter la colère de la population. On peut s'attendre, bien sûr, aujourd'hui, à différents scénarios, soit le retrait présenter un autre candidat ou maintenir sa candidature sans image, comme ça a été fait depuis le début. Donc de l'autre côté, le bras de fer donc se poursuit entre le pouvoir, ce gouvernement, et la population. On a vu hier la mobilisation s'amplifie. Certaines sources évoquent même jusqu'à 10 millions de manifestants dehors. L'appel à la grève générale a été suivi. Même par les entreprises et services publics, oui. Et certains syndicats, y compris issus de l'UGTA, le syndicat même, qui soutient jusque-là la candidature de Bouteflika.
Oui, qui faisait partie de cette alliance, effectivement, pour voilà. Soutenir le président. Donc pour les scénarios nationaux, il n'est pas exclu, comme le dit l'ancien candidat Ali Benflis, qui est déjà des fissures au sein de cette alliance. Justement, peut-être un signe sur le plan diplomatique, le fait que le 14 février, le pouvoir ait rappelé Ramtane Lamamra, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, et l'ait nommé conseiller à la présidence, qu'est-ce que ça signifie, selon vous, précisément qu'on ait pris ce membre un peu de l'élite diplomatique, hein, disons, pour venir auprès du président ?
Oui, justement, là, je crois, cette situation avec les défections, la mobilisation globalement a beaucoup impacté le déroulement prévu. Prévu pour le passage à un cinquième mandat. On sent quand même une déstabilisation au sein du système, au sein du pouvoir actuel. Certaines personnalités comme Lamamra, Lakhdar Ibrahimi, donc d'anciens diplomates ou actuels, pourrait jouer un rôle pour une future transition, une transition qui, je dirais, qui a déjà commencé. Donc on est dans une phase de transition, sauf que voilà, toute issue possible. Aujourd'hui, il y a rien qui filtre, donc il y a plusieurs possibilités. Donc à cette issue, oui.
Et cependant, sur un point quand même, est-ce qu'il n'y a pas une certitude, ou en tout cas une question, que c'est que l'absence du président, est-ce que c'était pas un handicap diplomatique, et est-ce que c'est pas ce que ça indique justement, ce rappel des grands diplomates?
Bien sûr, aujourd'hui c'est beaucoup, même la population mobilisée aujourd'hui s'inquiète par rapport à ça, ce pays qu'on a connu dans les années 70 notamment, un grand pays qui a joué un rôle important en Afrique, au sein du tiers monde, donc sur la scène internationale, et plus récemment donc le retour de l'Algérie après la dysnée noire sur la scène internationale, notamment dans la lutte qui joue un rôle important, notamment dans la lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, on le voit s'affaiblir avec l'affaiblissement du président, bien sûr. Beaucoup d'Algériens s'insurgent un peu sur le fait de voir lors des sommets internationaux ou régionaux l'absence ou de ne pas voir leur président présent. De ces sommets.
Et alors justement, est-ce que outre ces grands diplomates, est-ce qu'il aurait une équipe de successeurs, on pourrait dire, de son action diplomatique? Parce que c'est vrai que c'est lui qui, à partir de 2001, a commencé à renouer avec les États-Unis, premier président à visiter les États-Unis depuis 1985, et qui a noué une série de partenariats très forts avec la Russie, un peu dans un esprit de balancement, on pourrait dire.
Oui, je crois globalement, la diplomatie algérienne ne sera pas impactée. D'ailleurs, elle n'a jamais été impactée à travers les différents changements ou différentes évolutions que le pays a vécu depuis l'indépendance entre Boumediene, Chadli et Bouteflika aujourd'hui, même si la dysnée noire a été une parenthèse pour le pays sur le plan diplomatique, mais ça globalement ou stratégiquement, le pays ne change pas beaucoup sur le plan diplomatique.
Ouais, et le fait qu'il y ait eu si peu et de si timide, on va dire, réaction par rapport à d'autres crises internationales, le Venezuela par exemple, ces réactions qui se sont passées autour du 5-6 assez timides, qu'est-ce que ça signifie selon vous? On peut lire par exemple que la France serait notamment tétanisée par le différent historique, on va le dire comme ça.
Oui, tout à fait. La situation de la France aujourd'hui, elle est très délicate. Paris dans une situation donc délicate, présent entre accusations d'ingérence ou d'indifférence. Mais je ne pense pas qu'il y ait indifférence. Le pays, il y a des relations très étroites. Par contre, le passé colonial pèse très fort, très lourd sur les relations entre les deux pays. Il y a la proximité géographique, donc le Venezuela et donc le rapport de l'Algérie avec le Venezuela et avec l'Algérie est forcément différent. À mon sens, toute intervention ou déclaration de Paris serait dangereuse, car elle sera interprétée par de l'ingérence.
Oui, c'est ça, parce que c'est Édouard Philippe, je viens de retrouver la déclaration, mais qui avait dû démentir, on va dire, les soupçons de prudence de la France, c'est ça? Et il avait formulé ceci, ni indifférence, oui, ni ingérence. Oui.
Oui, il faut prendre en compte le fait que l'État algérien et la population d'ailleurs sont très sensibles à toute ingérence étrangère. Une interférence donc pourrait donc induire à des conséquences non désirables. Après, il faut quand même comprendre, où il est tout à fait normal de s'inquiéter de la situation actuelle en Algérie. L'inquiétude n'est pas est légitime. Les enjeux géostratégiques sont considérables. On parle d'un pays, de l'un des grands, le plus grand pays d'Afrique, un des plus peuplés,
ouais, c'est
du pourtour méditerranéen. Donc, Alger joue un rôle, comme je viens de le citer, considérable et indispensable dans la stabilisation régionale et dans la lutte antiterroriste, notamment au Sahel. Même si l'armée algérienne n'intervient pas à l'extérieur, mais la sécurisation de ses frontières, aide énormément l'armée française et le G5, notamment par l'ouverture de son espace aérien. Elle joue aussi un rôle vis-à-vis de la Libye, la situation en Libye, en Tunisie. Elle soutient beaucoup la Tunisie. Donc, une déstabilisation de l'Algérie induirait la déstabilisation, l'aggravation de l'instabilité régionale, même si ça reste quand même un scénario très peu probable.
Et même un rôle au sein du dispositif militaire américain régional, la Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership. Voilà. Est-ce que ça veut dire, en un mot, que l'Algérie, plus grand pays d'Afrique, 42 millions d'habitants, allez, septième acheteur d'armes mondial, est un peu too big to fail, pour utiliser l'analogie avec les banques pour la communauté internationale et pour expliquer la prudence, voilà.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on confond souvent. Bien sûr, il y a une, je dirais, une crise ou il y a une difficulté au sein du système politique. Mais cela n'impacte pas globalement la solidité de l'État. L'État reste solide globalement. Les institutions restent solides. L'administration, l'armée, c'est quand même la deuxième armée en Afrique après l'Égypte qui a pu sécuriser ses frontières. Aujourd'hui, il y a aussi de l'expérience. Il y a de l'expérience dans le maintien de l'ordre. Mais il faut surtout rappeler cette prudence au sein de la population et au sein des institutions par rapport à toute à une éventuelle dérive sécuritaire ou une éventuelle violence, les conséquences d'une violence. La population aujourd'hui est très il y a une certaine maturité politique par rapport à ce qui s'est passé, aussi à ce qui se passe aujourd'hui en Libye, en Syrie et dans la région globalement.
Et ce sera à suivre cette semaine à travers la grève générale et à voir s'il y aura effectivement ces élections.
Sûr, il faudra voir aussi ce qui se passera par la suite, les réactions du système actuellement, du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir va présenter par la suite?
Merci pour vos explications aujourd'hui, Brahim Mansour. Merci, consultant en géopolitique, enseignant à l'IRIS et à Paris-Est, Créteil.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et pour l'heure, 6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous venez de trouver un vrai symbole français, Bernard Tapie.
Oui, Tapie est à la une de Libération ce matin avec comme titre « Procès Tapie, on refait le match ». Mais en réalité, pas un jour ne se passe sans une interview de Tapie, une révélation sur la maladie de Tapie. Les commentaires politiques de Tapie, son soutien ou non aux gilets jaunes, son refus de répondre à une interview par exemple. Quand la journaliste lui demande en substance s'il préfère guérir du cancer ou gagner son procès. Donc Tapie est un symbole, hein, c'est certain, mais le problème c'est que l'on ne sait plus de quoi il est le symbole. Vous savez, Xavier, la vie est injuste. Dans l'existence, certains peuvent être Victor Hugo ou rien. Eh bien, Tapie n'aurait probablement pas pu être Victor Hugo, encore que je n'en sais rien, mais il aurait pu être chanteur, homme politique, patron de club de foot ou bien, tenez-vous bien, chef d'entreprise. Je dis qu'il aurait pu parce que on voit pas très bien, en fait, ce qu'il a été véritablement. Alors, sa carrière d'homme politique, elle se résume à un débat avec Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, eh bien, on apprend qu'il y aurait eu aussi un rendez-vous masqué avec le même Jean-Marie Le Pen, une direction d'entreprise, comment on va dire, hasardeuse. Et on ne sait pas très bien quelle entreprise Bernard Tapie a sauvé, mais on voit à peu près quelle entreprise il a planté. Bref, Tapie aurait pu tout faire, mais on ne sait plus très bien aujourd'hui ce qu'il a fait. Du coup, on ne comprend pas à quel titre, en fait, il occupe l'espace médiatique aujourd'hui. Ça n'est pas en raison des services rendus à la nation, il s'est plus servi qu'autre chose. Mais voilà, Bernard Tapie est devenu en quelque sorte un encombrant, un être dont on ne sait plus trop quoi faire. Il est là, il existe, on ne sait pas pourquoi. C'est une prime rendue à ses anciennes mauvaises actions, une sorte de clémence étrange et étonnante. Et c'est peut-être ça finalement qui lui permet de durer. Il a suffi par exemple d'un mensonge, un très gros mensonge, à Jérôme Cahuzac pour disparaître dans les abysses de la popularité. Et sa réapparition aujourd'hui provoquerait l'ire de nos compatriotes. Bernard Tapie, lui, a menti 1000 fois, il est toujours là. C'est peut-être le signe que la France est un paradis fiscal pour les milliardaires en mensonges.